Dans le baptême de Jésus. Qu'est-ce qu'un baptême? C'est être plongé dans l'eau. Donc pourquoi on est plongé dans l'eau? Pour se laver, mais aussi pour se noyer. Être plongé dans l'eau et pas pouvoir respirer, c'est se noyer, c'est mourir. Et donc le baptême a deux sens, purification et purification d'une vie de péché. Comme on lave ses mains, mais on ne noie pas ses mains en général, vous n'allez pas maintenir vos mains sous l'eau jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus respirer, parce que vous, elles vont être, comment dire, il va y avoir, comment ça s'appelle là, quand la peau devient avec des rides, n'est-ce pas, des rides d'hydratation excessive, mais vos mains ne mourront pas. Par contre, si vous avez la tête sous l'eau, au bout de 3 minutes, vous aurez des petits problèmes. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle le baptême était un signe de mort et de résurrection. Et donc, Jean le Baptiste plongeait. Alors, il y avait Moïse qui avait donné des indications de purification avec l'eau. Les musulmans actuellement en usent encore. Hein, avant de prier, il faut qu'ils se lavent les mains. Et jusqu'au coude, qui se lave la tête, tout cela vient de des traditions bibliques. Et donc, ici, les pharisiens, qui eux avaient multiplié, alors là, ils avaient tout, pour se moquer des pharisiens, on dit que leur maison était des piscines, ils avaient toujours de l'eau, une cuve d'eau, parce qu'ils se lavaient tout le temps, ils faisaient tout le temps des purifications pour être purs devant Dieu, voyez. Et donc, si Saint Jean-Baptiste, qui lui est de tribu sacerdotale en plus, il est lévite, et il est de la famille d'Aaron, Jean-Baptiste. La Vierge Marie est lévite par son cousinage, et elle est de la tribu de Judas par son père. Je crois, du côté d'Anne, c'est Judas, et du côté de Joachim, c'est Lévi. C'est l'inverse. J'aurais dû réviser pour ce soir, puisque Élisabeth, c'est plus de quel cousinage est Élisabeth, et si c'est du côté de Anne, la maman de Marie, ou si c'est du côté de Joachim. Mais elle est elle-même de la tribu de Judas et elle est de la tribu de Lévi. On a dit, mais comment ça se fait qu'ils se sont mariés dans deux tribus différentes? Ils se sont mariés entre deux tribus différentes. Et donc, les pharisiens demande à Jean s'il est le Messie, s'il est le prophète, s'il est le prophète Élie qui est revenu, et dit « Je ne suis ni Élie, je ne suis ni le grand prophète, je ne suis pas le Messie. » Mais alors, qui es-tu? Ben, je suis un prophète. Le dernier, celui qui annonce le Messie. Et Jésus vient. Alors, imaginez, Jésus, lui, il n'a fait qu'un seul miracle moral, c'est qu'il connaît toute la Sainte Écriture à 12 ans et qu'il peut, avec les scribes et les pharisiens, avec les docteurs de la loi et avec les prêtres du temple, poser des questions et répondre, et eux sont complètement dépassés. Ils ont passé toute leur vie à étudier la Sainte Écriture, l'un qui est là, qui a 95 ans, il a toute sa tête encore, moi je connais des gens qui à 103 ans servaient le thé au goûter à des gens qui venaient les voir, je l'ai vécu. Monsieur, il s'appelait Robert Saint-Martin, sa femme est morte à 97 ans, lui à 103 ans, ils ont fêté leurs 75 ans de mariage. Et donc, imaginez un vieux prêtre qui est là, et il voit un enfant de 12 ans qui en sait plus que lui. C'est miraculeux, je suis désolé. Eh bien, quand Marie et Joseph arrivent, ils disent, mais nous étions inquiets, ça faisait 3 jours, entre le vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques. Ça fait 3 jours qu'on te cherche et on avait de la peine, ton père et moi. Et là, Jésus leur dit, mais pourquoi vous étiez inquiets? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Une petite pointe pour Saint Joseph. C'est un saint homme, donc il sait que c'est pas son enfant, Mais c'est le père adoptif quand même depuis bébé, hein, donc qui a 12 ans, un rappel un peu mystique et solennel que son père c'est Dieu, et Marie conservait tous ses souvenirs dans son cœur. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, Jésus ? Ben, rien d'autre. Sauf qu'il était le soleil de Nazareth, hein, tout le monde savait qu'il... Enfin, il était plein de bonté, plein de bienveillance, enfin, il était... C'était le fils de Joseph, du charpentier. Et alors, certains veulent qu'il soit parti en Inde, qu'il ait été initié par des sorciers vaudous, non. Qu'il ait étudié les religions, ben non, il est Dieu. Donc il a passé une vie honnête à Nazareth pendant 30 ans, c'est décevant, hein. Ben oui. Et donc il arrive. Imaginez, il va voir son cousin Jean-Baptiste. Et les gens venaient et se faisaient plonger dans le Jourdain. Jésus parut alors. Nazareth, c'est dans le nord, hein, la Galilée des nations, avec des mélanges, avec des peuples païens, c'est pour ça que les Samaritains étaient pas loin, les Juifs détestaient les Samaritains. Mais en Galilée, il y avait des Juifs non Samaritains, hein, des Juifs non mélangés. Il va au Jourdain vers Jean pour recevoir son baptême. Or, Dieu révèle, comme il avait révélé au vieillard Siméon, qu'il est le Saint des Saints. Et donc, Jean-Baptiste, lui, il est devant le Messie. Il ne va pas baptiser le Messie. Il est pur, il est sans tâche, il est sans péché, le Messie. Et là, il est interdit. Je ne veux pas vous plonger dans l'eau. Vous n'allez pas mourir mystiquement, spirituellement. Enfin, vous êtes la vie. Et Jésus, lui, il veut mourir pour nous. Et déjà, à la limite, voyez-vous, en étant plongé dans l'eau, Jésus pouvait nous sauver rien que par ce signe. Ça aurait été moins douloureux pour lui, mais moins significatif pour nous. Mais le fait que Jésus se laisse plonger dans l'eau, et Jean-Baptiste n'a pas été cruel, hein, il ne l'a pas maintenu sous l'eau en disant « il faut accomplir les Écritures, hein, donc voilà, je vais le noyer et il va ressusciter après ». Non, c'est un simple baptême. Et donc, le fait que Jésus se plie à ce rite est incroyable. Réfléchissez. Celui-ci voulait l'en détourner. « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour l'instant. C'est ainsi qu'il nous convient. » Oula, quand Jésus parle au pluriel, hein, « qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Là, c'est quand il évoque la Trinité, voyez, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Donc, il y avait quelques nuages, n'est-ce pas? Et vous avez les nuages qui s'écartent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, vous avez une colombe blanche, comme celle du déluge, qui vient voler au-dessus du Christ. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, en qui j'ai mis tout mon amour. » Certains entendent cette voix distinctement. D'autres disent « C'est un tonnerre !» Et Jean-Baptiste, lui, il a entendu la voix totalement. Et saint Jean, l'évangéliste, qui était un disciple de l'austère Jean-Baptiste, dira, justement, en faisant parler Jean-Baptiste, hein, « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et il s'est reposé sur lui. » Alors, voyez-vous, vous avez un dessin pour les enfants qui est très bien, page 73. « Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain, il reçoit le baptême de son saint précurseur. Le Saint-Esprit plane au-dessus sous la forme d'une colombe, à droite des témoins de cette scène, plus que les disciples de Jean, tout ça. Et là, on le baptise à l'occidental. Mais non, 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 Jésus a été plongé dans le Jourdain. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'eau du baptême, avec la coutume et la tradition, elle est bénie, sanctifiée à la veillée pascale. Mais si vous rapportez authentiquement de l'eau prise du Jourdain, eh bien, on ne la bénit pas. Parce que le Christ s'étant plongé, ayant été plongé dans ce fleuve, même si les philosophes du soupçon disent « prendre pareil, tout passe, on ne se baigne jamais dans le même fleuve », ben, ce Jourdain a été sanctifié. Voyez-vous ? Voilà. Et donc, quand vous avez de l'eau du Jourdain, vous pouvez l'apporter et on baptise avec cette eau du Jourdain sans la bénir. Et là, voyez-vous, il passe tout de suite à la tentation du Christ. Et il y aura les appels des apôtres. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint pour y être tenté par le diable. Il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Le jeûne de Moïse, le jeûne d'Élie, c'est-à-dire sans nourriture et sans eau. Donc c'est un jeûne miraculeux. Mais un vrai jeûne quand même. Voyez ? Mais si on ne boit pas d'eau pendant 3-4 jours, on délire et on meurt. Donc là, il y a un aspect miraculeux aussi dans ce jeûne. Les exégèses modernes vous diront, mais non, il avait une gourde, il avait un petit ruisseau, il buvait. Il concède quand même qu'il n'a pas mangé, puisque vous avez des prisonniers de l'IRA en Grande-Bretagne qui sont morts au bout de 70 ou 80 jours parce qu'on ne pouvait guère que les hydrater et leur donner des aliments liquides, mais enfin, c'était pas évident. Mais avec de l'eau seulement, vous pouvez durer longtemps, surtout si vous avez des réserves. Voilà. Mais là, c'est véritablement 40 jours de jeûne. Alors, Lucifer s'approche de Jésus. Véritablement, Et à nouveau, les exégètes vous diront, c'est spirituel, il n'avait pas mangé depuis 40 jours. C'est vraiment Lucifer, le chérubin qui vient. Parce que, voyez-vous, pour Lucifer, la divinité du Christ sera toujours cachée. Il ne pourra y croire que par une foi informe, sans charité. Voyez, mais la divinité du Christ lui est cachée. Elle lui sera révélée. Il y croit par intelligence et par, si vous voulez, dans un cadre d'une malice qui nous échappe. Voyez. Mais là, il l'observe. Il dit, ah ça, c'est le sauveur. Alors, c'est celui qui va m'écraser la tête. Donc, il scrute les Écritures, il scrute les paroles des prophètes, écrites ou pas écrites, parce que lui, il connaît toutes les paroles. Imaginez le puits de science qu'a Lucifer de toute la Sainte Écriture. Il est là, il observe. Il le voit prier. Alors, le tentateur l'aborda et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, au sens propre, au sens figuré, au sens abstrait, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus lui dit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bon, il a une maîtrise de ses passions absolument extraordinaire, et il n'abuse pas de sa sainteté en demandant à Dieu, ou de lui-même, de transformer de la silice en blé cuit, et du pain. Ce qui est pas mal, Mais vous savez, créer les éléments du vin avec des atomes d'hydrogène et d'oxygène, c'est pas mal non plus, parce qu'il y a beaucoup de carbone et plein d'autres éléments dans du vin que de l'eau. Et c'est un acte divin, créateur, miraculeux. Le diable l'emmena alors à la ville sainte, à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple, hein, au pinacle du temple, tel que restauré et agrandi par Hérode. Hein, donc, je sais pas, il était à 30 mètres au-dessus du sol. Et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Donc, vous-même, dit, « Eh bien, je vais jeûner pendant 40 jours, l'Esprit Saint va m'assister. » Non, on ne met pas Dieu à l'épreuve de choses qui sont dangereuses pour notre santé. Lorsque par esprit de pénitence, vous avez les chrétiens qui se flagellaient, hein, comme on s'en est bien moqué dans le Da Vinci Code par rapport à ceux qui se font des pénitences avec ce qu'on appelle une discipline, hein, des petits fouets en corde, les franciscains se donnent la discipline. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus se donnait la discipline. C'est-à-dire qu'ils mortifiaient leur nervosité, leur corps, leur sensibilité pour les pécheurs. Pour eux, si tant de fois ils avaient des élans de colère, vous voyez, vous vous mettez en colère, vous avez envie vraiment d'insulter quelqu'un, vous voyez, qui vous a exaspéré. Et là, vous avez votre mère qui arrive et qui vous donne une gifle, là, vous décrochez la tête. Ça vous calme. Vous êtes là, vous n'avez plus envie de crier. Vous voyez. Il y a quelque chose dans la douleur physique qui calme, c'est vrai. Mais pour pas que ça soit du sadomasochisme, l'Église ne veut pas qu'il y ait de sang. On ne doit pas se frapper jusqu'au sang. Alors vous avez aussi des cilices, c'est-à-dire des habits en laine crue, qui vous grattent, qui vous... Comment dire, vous avez des bandes de laine. Certains ont rajouté des petites pointes en fer. Mais ça ne doit pas normalement vous faire saigner, ça doit vous faire vous piquer. Vous voyez. Voilà. Alors, je vous donne un exemple très cru. Hein. Vous avez quelqu'un qui est tenté par des vidéos pornographiques sur Internet, n'est-ce pas? Il est là, il ouvre son ordinateur, il clique une fois, il clique deux fois, machin. Et là, tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui est derrière lui et qui lui donne un coup sur la tête. Eh bien, il a moins de pulsions, il y a un truc. Quoi. Ou alors, quelqu'un arrive avec un seau d'eau avec des glaçons et son coloc. Voyez. Et ça arrête toute tentation. Voilà. C'est le principe des pénitences corporelles. Oui, il se mettait à genoux sur des cailloux, tout ça. Saint Louis avait une discipline avec des petites chaînes en fer, mais toutes petites. Hein. Elles étaient à Notre-Dame de Paris, actuellement elles sont dans un protégé au Louvre, mais on a la discipline de Saint Louis. C'était un petit tube en ivoire, et à l'intérieur du tube, il y avait trois petites chaînes en fer. Vous voyez. Mais toute petite et très fine. Vous voyez, portative, enfin il l'avait, et de temps en temps il se donnait la discipline. C'était simplement, devait être piquant simplement. Enfin, vous voyez, c'était. Et il y a au-dessus de cette petite discipline de Saint-Louis, il y avait une gravure où, on voit un moine donner la discipline à Saint-Louis. Donc il est à genoux. Et le moine lui donne un coup sur l'épaule gauche, un coup sur l'épaule droite, comme ça. Mais c'est vraiment pas à la mode. Hein. Actuellement, les pénitences corporelles volontaires, et même des prêtres classiques, traditionnalistes, sont assez froids vis-à-vis des pénitences corporelles. Ils vous invitent à vivre à vous lever vite le matin, à ne pas traîner au lit. Ils vous invitent à prendre des douches rapides et pas trop chaudes. Ils vous invitent à supporter des maladies, à supporter, à offrir des contrariétés. Voyez. Mais ils n'osent plus trop de nos jours à cause du fait que c'est ridiculisé par les médias modernes. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Hein, c'est le mont de la tentation où traditionnellement, on sait où c'est, hein, en Terre Sainte. Lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire. Donc vision surnaturelle. Lucifer croit que ça. Jésus, il connaît tout ça. Hein, mais il est là, il montre comment dire, toutes les grandes villes, toutes les murailles, tous les trésors qu'il peut y avoir sur terre. Lui qui désire simplement être adoré à la place de Dieu. Hein. Mais il sait que c'est un moyen de corruption de l'homme. L'argent, les plaisirs. Tout cela, je vais te le donner si tu tombes à mes pieds et m'adores. Sachez que ça, c'est dans un passage parallèle, il est dit, tout cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Quel orgueil! On dirait que c'est Lucifer. Tout cela m'appartient et je le donne à qui je veux. C'est impressionnant. Rares sont les paroles authentiques de Lucifer. Tous ces royaumes m'appartiennent et je les donne à qui je veux. Si tu tombes à mes pieds et m'adores, mais je ferai en sorte que tous les hommes te reconnaissent comme le roi des rois. Enfin, il ne le fera pas jusqu'au bout, hein. C'est la fraternité de la crapule. Hein. Non, c'est lui qui veut cet honneur des hommes. Mais là, pour le coup, si le roi des rois dit « Faites, honorez-moi dans le monde entier, et moi, je reconnais Lucifer comme Dieu. Hein, » c'est « si tout cela, je vais te le donner, si tu tombes à mes pieds et tu m'adores. » Donc, ultimement, Jésus doit ramener tous les peuples à adorer Lucifer. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan. Diable, c'est le diviseur. Démon, c'est l'esprit. Et là, c'est péjoratif. Hein. Le daimon, c'est un esprit. Hein. Ça peut être un ange ou un démon, mais c'est réservé à démon. C'est l'adversaire. Diable, c'est le diviseur. Démon, c'est l'esprit hostile. Et là, il lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le quitta alors, et voilà que des anges s'approchèrent qui le servaient. Appel des premiers disciples. Et nous nous arrêterons normalement dans 20 minutes. Normalement, enfin, si vous ne tournez pas de l'œil, voilà. Jésus se trouvait au Jourdain avec deux de ses disciples. Jean se trouvait au Jourdain avec deux de ses disciples. Regardant passer Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ses deux disciples l'entendirent et allèrent vers Jésus. Voyant qu'il le suivait, Jésus se retourna. « Que cherchez-vous ? » dit-il. Il répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeurez-vous ? Venez voir, leur dit-il. » Ils allèrent où il demeurait et ils restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. 10e heure, c'est 16 heures de l'après-midi, je crois. L'un des deux disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus était André, le frère de Simon, marin pêcheur. Il alla aussitôt trouver son frère et lui dit, « Nous avons découvert le Messie. » Ce mot signifie Christ. Il l'amena à Jésus, qui le regarda et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean. » C'est pas Jean le Baptiste, hein, c'est Jean, c'était le père de André et Simon. Marin pêcheur lui-même, hein. Tu t'appelleras Képhas. Ce mot signifie pierre. En grec, je crois, hein, sauf erreur de ma part. Le lendemain, Jésus eut l'intention de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Alors, si vous voulez, Jésus était déjà un homme de prière et il avait le manteau des prophètes, c'est-à-dire que il avait quitté Nazareth et il commençait à prêcher, il commençait à parler. Et donc, il était une sorte de prédicateur itinérant, comme Jean-Baptiste. Mais doucement. Toutefois, alors qu'il avait avec lui André, Simon, Pierre et Jean, il demande à Philippe de le suivre. Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, un ami, et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et qu'ont annoncé les prophètes. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Alors ce qui est très beau, c'est le résumé de ces hommes qui n'étaient pas totalement incultes. Hein, on en rajoute de nos jours pour dire « Vous vous rendez compte, ils étaient pauvres, idiots et stupides. » Donc vous voyez, c'est quand même miraculeux que l'Église vienne de là. Oui, oui, c'est sûr. Sauf que Jean était un pharisien, et donc il a étudié et il faisait, qu'est-ce qu'il faisait Jean ? Il était pêcheur pour sa subsistance. Paul, qui avait étudié auprès des grands maîtres d'exégèse pharisiens, lui, il cousait des tentes de bédouins. Mais c'était le travail, c'est comme si vous disiez que le père abbé bénédictin qui de temps en temps, va retourner la terre pour en 1200 ou en 1300 pour des récoltes, était un brave agriculteur. Non, il est père abbé de son monastère et il aura et labora. Ensuite, il y a eu une décadence dans le sens où peu de moines faisaient du travail manuel, mais normalement, les moines font du travail manuel, toujours. Et donc ici, il dit, dont Moïse a parlé et qu'ont annoncé les prophètes. Et Nathanaël, en bon juif, il dit, mais il va naître à Bethléem, le Messie, Nazareth. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon ? C'est un village de Galilée, on n'a jamais entendu parler de Nazareth dans les prophètes. On a quand même dit qu'il serait naziréen, c'est-à-dire ceux qui faisaient un vœu, qui se coupaient les cheveux et ne se les coupaient plus jusqu'à ce qu'ils aient réalisé leur vœu, et qui ne buvaient plus de vin jusqu'à ce qu'ils aient réalisé leur vœu. Un nazir. Et donc leurs cheveux étaient plus ou moins longs selon l'œuvre qu'ils avaient décidé de faire. D'aller à Jérusalem, de rester pendant des mois dans le jeûne et la prière. Enfin voilà. Philippe lui répondit, viens voir. Et Jésus, voyant Nathanaël venir à lui, dit, donc il arrive, il marche vers Jésus, voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a point d'artifice. Pas de mensonge. Nathanaël lui dit, d'où me connaissez-vous ? Et alors, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Or, Nathanaël était donc lui-même un pharisien, parce que, pour qu'il comprenne cette expression, être sous le figuier, c'est prier sous le figuier et méditer la parole de Dieu. Voilà ce que signifie être sous le figuier. C'est pas dormir dans un hamac, hein, c'est méditer la parole de Dieu, être sous le figuier. Et ça, pour le coup, on peut remercier les exégètes qui ont scruté les traditions juives pour trouver cette expression. C'est comme les scorpions blancs. Hein, quand vos enfants vous demandent des œufs, vous leur donnez pas des scorpions. En Terre Sainte, vous avez des petits scorpions blancs qui, recroquevillés, ressemblent à des œufs de caille. Et là, vous comprenez la parabole. Et alors, apparemment, Nathanaël, lorsqu'il méditait la parole de Dieu, a peut-être eu une vision. Jésus lui dit, pendant que tu méditais la parole de Dieu, je t'ai vu. Mais qu'est-ce que Nathanaël a médité ? Est-ce qu'il a médité Ézéchiel ? Est-ce qu'il a médité Daniel ? Hein, ce fils d'homme dans la gloire de Dieu, qui est quand même étrange. Hein. Ézéchiel dit, je vis comme un fils d'homme qui était comme dans de l'airain brillant. Comment ça se fait qu'il y a un fils d'homme dans la gloire de Dieu? Si Dieu ne peut pas s'incarner, c'est pas possible, Dieu ne peut pas être un homme. Pourtant, Ézéchiel dit, j'ai vu une apparence d'homme dans la gloire. Alors, est-ce que Nathanaël méditait ce passage, ou alors est-ce qu'il a vu la même vision qu'Ézéchiel? En tout cas, quand Jésus lui dit que lui-même l'a vu alors qu'il était en train de prier, voilà ce qu'il répond. Maître, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. Une minute avant, il disait Nazareth, c'est un village perdu, peu connu. Et là, il lui dit qu'il est le Messie. Et voilà ce que va lui répondre Jésus, ce qui montre bien que les apôtres ont eu à méditer, à réfléchir très très tôt. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses encore. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Oh, ça, alors, les anges monter et descendre, accompagner le Fils de l'homme, c'est que les anges adorent le Messie. C'est les cieux ouverts. Il commence déjà à dire ce qu'il dira au grand prêtre. Quand le grand prêtre lui dit « Mais est-ce que tu es le Messie au nom du Dieu vivant ? Dis-nous si tu es le Messie !» Et là, Jésus lui dit « Je le suis. » Donc, les exégètes disent « Oui, mais au début, il disait de ne pas le dire. » Et tout ça. Ben, là, devant le tribunal de Caïphe, il le dit. « Et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec les anges. » Ah, le grand prêtre, il est là. Tu seras sur la nuée. La nuée qui signifie la présence de Dieu pour le peuple juif pendant les 40 ans du désert. La nuée qui est descendue sur le temple de Jérusalem pour le consacrer lorsque Salomon avait offert les victimes et que tout d'un coup, la nuée du désert, 400 ans après Moïse, est tombée sur le temple et que les prêtres, les lévites partaient du temple aveuglés dans une nuée lumineuse impressionnante que tout le peuple, près de 500 000, 1 million de juifs, ont vu. C'est pour ça qu'ils sont marqués. Regardez les Portugais. Ils sont marqués. Il y a 50 000 Portugais qui ont vu le soleil danser dans la plaine de Fatima. Ben, ils s'en souviennent encore. Toutes les familles ont quelqu'un qui était à Fatima. Leurs grands-parents, ils ont tous quelqu'un, un oncle qui était à Fatima. Et ben, imaginez ce peuple. Pourquoi il a gardé la foi pendant tant de siècles? Ben parce qu'ils ont vu des miracles assez impressionnants. Et là, Jésus dit, vous me verrez sur la nuée. Et là, il déchire ses vêtements et il dit, avons-nous besoin de plus de témoins? Étant homme, il se dit Dieu, donc il mérite. Qu'est-ce qu'il mérite? Et les autres disent, la mort, c'est un blasphème. Vous discutez avec un Uber ou un taxi musulman. Si vous lui dites « Jésus, c'est le Fils de Dieu », il fait un écart. Vraiment, vous êtes sûr? Pour nous, c'est un grand prophète. Il viendra à la fin des temps pour lutter contre le Tzal. Vous n'êtes pas un peu associateur? Pour eux, l'incarnation, c'est un grand problème. Pourtant, l'incarnation, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et nous sommes, nous devons annoncer cela pour que les musulmans et les juifs soient baptisés. Voilà, et il le dit à Nathanaël, donc vous avez l'image là pour les enfants. Jésus appelle ses 5 premiers disciples, André, Pierre, Jean, Philippe et Barthélemy, ou Nathanaël. Il a 2 prénoms. Ils répondent à leur vocation, cependant ils continueront une année encore leurs occupations. Alors, il l'accompagne, et la Vierge Marie est avec son fils. Alors, est-ce que le couple qui se mariait était connu de Jésus, ou de Marie, ou de Nazareth? On célébrait des noces à Cana, en Galilée. Alors, vous avez 2 Cana. Vous avez un Cana qui est le plus célèbre, et puis vous avez un Cana qui se trouve plus un peu plus proche, enfin du non, au plus haut du côté du Liban. Vous voyez? Et ils disent, c'est là, c'était là, c'était là, c'était là. D'ailleurs, ils ont une tradition comme quoi la Vierge Marie s'est reposée près d'un chêne où elle s'est reposée. C'est vrai, dans ce village qui s'appelle Cana, mais qui est au Liban, eh bien, cet arbre est vénéré comme l'arbre de la Vierge. Et quand ils sont arrivés pour le mariage, avant le mariage et tout ça, ils se sont reposés dans une grotte. Et tous les fiancés de la région viennent se recueillir dans cette grotte. Et voilà, en l'honneur de la Vierge Marie, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Parce que Jésus est un grand prophète. Mais Mahomet retire la croix. Jésus a été substitué et n'est pas mort sur la croix. Et il retire la divinité du Christ. Mais il le replace comme venant à la fin des temps. Vous voyez, donc c'est une hérésie presque chrétienne, l'islam, vous voyez. Presque, puisque on n'est pas dans la divinité du Christ. Mais il y a un mélange de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. En l'an 620. Et... Comment? Oui. Oui, c'est... Et d'ailleurs, mais peut-être est-ce une pierre d'attente? Si un jour il y a un conflit avec les islamistes, les occidentalistes, tout ce que vous voulez, et que, comment dire, la Vierge Marie, je ne sais pas, intervient pour convertir les musulmans. On verra bien. Puisqu'elle est apparue à Guadalupe, qui en arabe veut dire les fontaines lumineuses, parce qu'avec l'occupation de l'Espagne pendant des siècles, il y a des mots arabes hein, en espagnol. Guadalupe. C'est un lieu en Espagne. Et quand ils sont allés en Amérique du Sud, à côté de Mexico, il y avait le lieu-dit Guadalupe, parce que les Espagnols donnaient les noms de leur village, de leur lieu-dit. Et c'est là que la Vierge Marie apparaît. Guadalupe, c'est de l'arabe. Hein. Ensuite, Lourdes, c'est de l'arabe. Ça veut dire rose, fleur. C'est un dignitaire musulman qui s'est converti. Et Fatima, c'est de l'arabe. Et la Vierge Marie apparaît à Fatima. C'est peut-être un petit coucou, n'est-ce pas, pour les années à venir. On verra comment le bon Dieu va contourner ce que on nous prédit comme un bain de sang, qui sera peut-être terrible, mais peut-être qu'il y aura des miracles qui attireront les âmes de bonne volonté. On célébrait des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus y était, et Jésus y fut aussi invité avec ses disciples. Le vin manqua, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc Marie demande à Jésus, son fils, de faire un miracle. Et pas n'importe quel miracle, hein, transformer de l'eau en vin. Jésus lui répondit, alors là c'est pour les enfants. Mère, non, 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 il n'a pas dit mère, il a dit femme. Il n'a pas dit femme, hein, comme certains exégètes ou prêtres ivres-morts le disent en sermon. Il a dit femme. Il a dit Ève. C'est femme dans toute la noblesse du mot. Hein. Jésus n'est pas vulgaire. Femme, en quoi cela nous... En quoi cela nous concerne-t-il? Mon heure n'est pas encore venue. Et il y a une autre traduction, parce qu'elle est... Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et à mon avis, c'est la plus logique avec femme. Ève. Nouvelle Ève. Qu'y a-t-il entre toi et moi pour que tu me demandes de mourir? Et la Vierge Marie? C'est son fils, et elle va souffrir quand elle va voir son fils mourir pour nous. Mais elle veut aussi le salut du monde. Et donc, là, elle dit à son fils de se révéler. Joseph vient de mourir, hein. Il est mort juste avant le baptême au Jourdain, avec Marie et Jésus, hein. Il est le patron de la bonne mort, parce que mourir entre la Vierge Marie et Jésus, je pense qu'on ne peut pas mieux mourir. Mais son père adoptif est mort. Imaginez la peine qu'il a dû avoir, lui qui a eu de la peine pour Lazare. Hein, imaginez la peine de Jésus quand il a vu son père adoptif mourir. Moi, je pense qu'il l'a préservé de la corruption du tombeau pendant les 3 ans. Parce que quand vous avez sainte Bernadette qui, 25 ans après sa mort, avec le corps encore souple, je pense que pour son père Joseph, le bon Dieu a dû mettre ce qu'il fallait. Mon heure n'est pas encore venue, mon heure c'est ma mort. Donc c'est tout à fait direct. Et la Vierge Marie n'est pas là en disant « Oh, mais les exégètes modernes me disent que je suis bête comme une oie et que j'ai dit ça comme ça pour faire plaisir aux fiancés. Mais de quoi parles-tu, ton heure ? Il n'y a pas de montre. » Donc la Vierge Marie ne relève pas. Ça veut dire qu'elle continue et qu'elle sait ce que veut dire son fils quand il parle de l'heure. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, elle force la main de son fils. Elle force la main de Dieu. Hein. Or, il y avait là, destiné aux ablutions des Juifs, 6 auges de pierre, qui contenaient chacune 2 ou 3 mesures, 50 à 100 litres. Hein. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces auges. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en au maître d'hôtel, au maître du festin. Et ils en portèrent, dans une amphore, dans une coupe, mais justement, on pense que c'était plus que des amphores, l'origine, hein, l'eau qui est utilisée. Le maître du festin goûta cette eau changée en vin, et ignorant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il se tourna vers l'époux. Hein. Donc là, il était en train de goûter du Romane Conti, alors que normalement, le vin de l'époque, c'est une pâte, c'est du vin, c'est du jus de raisin fermenté, extrêmement chargé, plus que du Porto, très lourd, et qu'on diluait avec de l'eau avant de le boire. On mixtait avec de l'eau. Donc c'était pas de... On mettait des aromates, on mettait parce que... C'était parfois du vinaigre, hein. On mettait de la cannelle, on mettait plein de choses dedans. Donc là, il goûte un vin pur. Là, il dit, je ne connais pas. Et l'usage est de servir d'abord le bon vin. Et puis, lorsqu'on est gris, hein, quand on a la langue chargée, lorsqu'on a bien mangé, le moins bon. Mais vous, vous avez réservé le meilleur jusqu'à maintenant. Il se tourne vers le fiancé. Enfin, vers le mari et les époux qui viennent de se marier. Mais en fait, ils devraient se tourner vers le Christ. Donc, qui est le véritable époux de ce mariage? C'est Jésus. Et Saint Jean-Baptiste disait, « Quand j'entends la voix de l'époux, moi, je suis l'ami de l'époux, se réjouit. » Et que Jésus fasse son premier miracle dans un mariage, c'est le mariage mystique, c'est l'incarnation. C'est absolument extraordinaire. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voilà, donc je m'arrête ici et nous verrons après les différentes... Et puis, comment dire, on verra se dérouler tout le Nouveau Testament par évangile. Avez-vous des questions? Oui, pour une fois que je respecte pile l'horaire, oui.